17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin aujourd'hui avec Jean-Loup Blachier. Merci Jean-Loup d'être parmi nous.
Merci de m'avoir
invité. Pour ce grand témoin exceptionnel. Vous êtes secrétaire confédéral de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous êtes président du groupement du patronat francophone et président de la CPME de la Seine-Saint-Denis, à laquelle vous êtes très très attaché. Vous nous expliquerez pourquoi. Alors, plusieurs événements, vous venez d'organiser au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, un énorme événement sur les diasporas, et les diasporas francophones entre autres, et vous nous expliquerez pourquoi vous avez tenu à organiser cet événement. Le 27 juin prochain, à Villers-Cotterêts, vous organisez aussi un immense événement, vous réunissez les conseils économiques et sociaux francophones, et vous montrez des ateliers, vous nous direz pourquoi. Et vous préparez, bien sûr, ce sommet exceptionnel à Villers-Cotterêts, qui est la Cité internationale de la langue française, le 5 et 6 octobre prochain, où Emmanuel Macron présidera un sommet qui ne s'est pas tenu en France depuis 33 ans. Ça sera un événement. Vous êtes quelqu'un qui retroussait les manches, qui n'avait pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Depuis 88, vous êtes gérant d'une société Promaction, dont l'objet est la création et distribution de produits industriels. Vous enseignez aussi parce que vous estimez qu'on ne peut pas être chef d'entreprise si on n'est pas aussi dans la transmission, l'enseignement, et vous associez l'université à tout ce que vous faites. Donc vous êtes professeur associé à l'université Paris 8. Vous êtes diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Paris, et vous êtes aussi titulaire d'un DEA en philosophie. C'est pas contradictoire, le business et la philosophie ?
Oh non, au contraire. Ce sont deux éléments qui sont très très complémentaires. Mais ça, je vous en parlerai, bien évidemment.
Alors, peut-être d'abord, vous êtes un Européen convaincu. Tout jeune, vous êtes engagé pour l'Europe. Cette Europe qui est née sous les auspices du plus jamais ça. Hein, on a créé l'ONU, la SDN, l'ONU, etc. Et vous, Européen convaincu, ardent défenseur de la communauté européenne, des échanges commerciaux, aujourd'hui, vous voyez la guerre en Ukraine, vous voyez l'Azerbaïdjan en Arménie, vous voyez la Turquie qui embête un peu la Grèce sur certaines îles, l'OTAN qui est remise en question par des personnalités américaines telles que Donald Trump. Comment vous voyez ce que l'Europe est devenue ? On a l'impression qu'elle ne compte plus. Pas plus tard qu'hier, un grand spécialiste économique disait que la Russie ne s'est jamais autant bien portée qu'aujourd'hui sur le plan économique, malgré toutes les sanctions européennes. C'est-à-dire que l'Europe n'a plus aucun pouvoir.
Là, je crois que vous êtes extrêmement dur, quand même. En effet, j'ai été président des Jeunes Européens. C'était dans les années 78-79, donc ça remonte quand même beaucoup. Et à cette époque, moi-même, j'étais, et vous l'avez souligné tout à l'heure, j'étais étudiant. Et en tant qu'étudiant, il est extrêmement important pour nous de pouvoir d'abord travailler dans une Europe qui soit pacifiée. Hein, ça, c'était un élément qui était fort. Je l'ai souligné, je le souligne encore très souvent, on ne peut pas travailler dans le conflit. Si on veut arriver à ce que nos entreprises se développent, c'est évidemment dans un élément pacifié, sinon ça ne marche pas. Et donc, quand j'étais président des Jeunes Européens, j'avais en effet cette volonté véritable qu'il y ait des rapports forts entre les différents pays. Je crois que ceci doit continuer et doit perdurer. Clairement, dans notre pays aujourd'hui, on doit continuer à travailler de façon forte avec les Allemands, avec les Hollandais, avec les Italiens et tous les...
L'Europe, c'est quand même l'axe franco-allemand, en caricaturant. Mais cet axe est un peu malade en ce moment.
Alors j'espère que non. J'espère que non. Je crois que c'est extrêmement difficile d'expliquer que c'est un axe malade. Si je reviens dans mon entreprise aujourd'hui exporte en Allemagne. Les Allemands exportent aussi en France et travaillent avec les Français de façon tout à fait normale. Mais on le fait aussi avec les Italiens et les Espagnols. Et heureusement que l'on fait ça. Moi, je vous parle simplement des éléments qui sont des éléments commerciaux que nous pouvons faire ensemble et que nous pouvons comme ça construire. Heureusement qu'on a cette possibilité de travailler entre nous. Alors bien sûr, j'espère que on n'aura aucun conflit dans les années qui vont venir dans notre surface européenne.
Mais on voit quand même que l'Europe n'a pas de stratégie commune en termes de relations extérieures, des affaires étrangères, n'a pas de défense commune. On l'a vu sur les guerres Iran-Irak, en Irak, notamment, où il y avait plusieurs pays européens qui étaient du côté des États-Unis, plusieurs d'autres pays qui étaient du côté de la France. Hein, on se rappelle Jacques Chirac qui était contre la guerre en Irak. On a quand même l'impression, et que parlons du conflit, par exemple, israélo-palestinien, elle n'a même pas un strapontin. L'Europe, la France en particulier, ne peut faire aucune pression sur Israël. Et sur les différents conflits, on voit l'Ukraine aussi, elle a du mal un petit peu à stopper Vladimir Poutine. Vous, qui êtes un Européen convaincu, qui avez développé cette idée de renforcer l'Union européenne, les initiatives intra-européennes, vous devez être un petit peu malheureux, non ?
D'abord, il y a l'histoire de l'Europe, qui est quand même une histoire qui est ancienne. Quand on regarde ce continent, c'est un des plus vieux continents. C'est certain qu'on a eu des histoires entre les différents pays, et malheureusement, qui ont été parfois des drames. C'était vrai entre la France et l'Angleterre, c'était vrai entre la France et l'Allemagne, c'était vrai. Et maintenant, arriver à ce que tout le monde véritablement travaille ensemble, c'est pas toujours facile non plus. Ça, il faut bien le reconnaître. Mais c'est au niveau politique dont je vous parle. Moi, je vous parle surtout au niveau économique. Et au niveau économique, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. C'est une obligation. Maintenant, quand on regarde les choses, vous ne l'avez pas cité, mais j'ai été aussi médiateur des marchés publics.
Absolument. Il se trouve que... De 2012 à 2016.
Voilà. Il se trouve que le président de la République de l'époque, qui était François Hollande, m'avait nommé médiateur des marchés publics. Et je m'étais notamment préoccupé sur un point qui semble être extrêmement important, c'était la surtransposition qui se passait, que faisaient les Français par rapport justement aux réglementations européennes. Et dans ce domaine-là, je m'apercevais que, c'est vrai, la France avait toujours tendance à être un peu plus dure sur les éléments européens que ses voisins allemands. Et je me souviens notamment d'une entreprise française qui m'avait vraiment interpellé parce qu'il voulait travailler sur un chantier qui était important. C'était le chantier qu'il y avait entre Strasbourg et Kiel en Allemagne, sur lequel on faisait à l'époque un métro. Et donc il fallait que ce n'était pas un métro, d'ailleurs c'était un tramway. Et sur ce tramway, il fallait absolument que des entreprises allemandes et françaises puissent travailler. Et on s'aperçoit que finalement, les Français était tellement exigeant dans les codes des marchés publics que le résultat des entreprises françaises était pratiquement toujours éloigné des marchés publics.
Et c'est là où vous avez proposé de créer un Small Business Act sur le modèle américain. C'était quoi alors ?
Il fallait un Small Business Act qu'on appelait à la française. C'est-à-dire, vous savez que les Américains arrivent à donner une préférence, même si c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, notamment dans le code des marchés publics, mais disons une préférence aux petites et moyennes entreprises. Vous avez cité tout à l'heure que j'étais en effet un des acteurs de la CPME, et donc je suis secrétaire général. Et bien sûr, on défend nos petites et moyennes entreprises, qui est un élément absolument important. Vous savez quand même que ce sont les petites et moyennes entreprises qui font les tissus économiques de notre pays, mais pas que de notre pays. Vous avez parlé aussi, vous avez dit que j'étais président du groupement du patronat francophone. Et le groupement du patronat francophone, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait justement la possibilité de travailler entre les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas les grandes entreprises qu'on va aider à se développer, c'est une évidence. Et donc, moi, ce que je voulais, quand j'ai fait ce Small Business Act à la française, je voulais que ce soit justement ces petites et moyennes entreprises qui puissent profiter mieux des marchés. Aujourd'hui, vous savez qu'on parle largement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Paris 2024, ça sera en effet une vraie opportunité pour nos entreprises, et notamment les entreprises de la Seine-Saint-Denis, pour profiter de ces marchés. Mais je m'aperçois qu'en effet, malheureusement, elles profitent, les petites et moyennes entreprises, mais en tant que sous-traitantes, c'est pas pareil que lorsqu'on est en premier ordre. Et donc, moi, je crois qu'il faut absolument que l'on travaille dans ce sens pour que les petites et moyennes entreprises puissent mieux profiter des marchés publics.
Alors, bien sûr, vous êtes un ardent acteur artisan de la réindustrialisation de la France, mais vous êtes aussi président de la Chambre de commerce France-Israël depuis 2013.
Pas président, membre du conseil d'administration.
Voilà, membre du conseil d'administration, ouais. Et membre aussi de la Chambre de commerce franco-arabe depuis 2018.
Absolument.
Alors c'est quoi ? C'est du en même temps à la Macron ?
Mais pas du
à
tout.
La fois, alors, moi, ça veut dire quoi ?
Encore une fois...
Comment vous arrivez à gérer ça ?
Le problème est extrêmement simple. Nous, on fait de l'économique. On ne fait pas du politique. Il est clair que les politiques, eux-mêmes, ils ont toujours des éléments qui sont un peu différenciants. Nous, dans l'économique, est-ce que vous croyez qu'il est extrêmement difficile de faire travailler des pays entre eux ? Pas du tout. Regardez comment, aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis travaillent avec Israël. Ça pose aucun problème. Regardez comment aujourd'hui la Tunisie travaille avec les Émirats.
Mais quand même, Israël, par exemple, il y a une grosse campagne de boycott sur les produits qui sont fabriqués dans les territoires colonisés par les colonies israéliennes en Palestine. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur... rappelez-vous, l'Afrique du Sud, c'était l'apartheid, et il y a eu du boycott. Ça, c'est un boycott qui était valorisé, et aujourd'hui, ça pose un problème sur certaines entreprises qui travaillent dans les territoires colonisés par Israël.
Mais encore une fois, vous faites de la politique, vous ne faites pas de l'économique. Moi, je crois qu'encore une fois, il faut continuer à faire de l'économique. Vous savez, les hommes... doivent continuer à pouvoir évoluer le mieux possible dans leur environnement. Pour qu'évoluer dans un environnement, il faut qu'ils puissent pouvoir continuer à vivre, manger, se déplacer, etc. Ça, c'est important. Et ça, c'est de l'économique, c'est pas du politique.
Alors, Jean-Loup Blachier, vous avez raconté, vous avez dit votre amour de l'entreprise, votre amour aussi de la francophonie. Vous êtes président du groupement du patronat francophone et vous avez dit, la langue française est un formidable vecteur pour créer des ponts commerciaux entre les peuples francophones et francophiles.
Bien sûr. Et ça, j'y crois beaucoup. Vous savez, si je vous pose une question, je ne sais pas si vous aurez la bonne réponse. Est-ce que vous avez plus de mots en français ou en anglais ? Est-ce que vous avez plus de mots dans le ARAPS, qui est le dictionnaire de référence anglais, ou dans le Petit Robert, le dictionnaire français ? À votre avis, lequel il y a le plus de mots ? Si je vous pose une question, Nasser.
Je pense que ça doit être dans le Petit Robert, non ?
Eh bien non, c'est dans le ARAPS. Alors, ce qui veut dire une chose, c'est que vous avez plus de mots qui arrivent à définir peut-être mieux les choses en anglais qu'en français. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous travaillez avec des gens dont la langue n'est pas la langue natale, eh bien, vous avez évidemment des difficultés à comprendre les subtilités de la langue. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je vous dis de façon absolument certaine, travaillons avec toutes les personnes qui ont des langues en partage.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, toujours avec Jean-Loup Blachier qui est notre invité. Jean-Loup Blachier, vous avez organisé il y a quelques jours une grande rencontre sur les diasporas au CESE et vous avez fait des tables rondes avec beaucoup d'entreprises. Et cette idée de se faire rencontrer les diasporas économiques et francophones, elle vous vient de la Seine-Saint-Denis, vous m'avez dit.
Absolument. Alors, d'abord, je voudrais commencer une chose en disant que je remercie vraiment Beurre FM parce que vous êtes peut-être l'une des seules radios à inviter quelqu'un qui ne soit pas un politique mais un économique. Confondons pas l'économique et le politique. Moi, je crois que les politiques, quand ils sont invités dans les différents médias, finalement, ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous en train de s'injurier les uns les autres, de se raconter des histoires, etc. Nous, les économiques, on va faire quelque chose de constructif. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer de trouver des solutions pour améliorer aussi la condition des gens. Eh bien, c'est toute l'idée de ce que j'ai eu et ce que j'ai rencontré lorsque je suis en tant que président de la CPME de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un formidable territoire. C'est un formidable territoire où vous avez le plus de chefs d'entreprise issus des différents pays du monde.
Emmanuel Macron la présente comme la Californie française.
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de Californie, parce que la Californie, les choses sont un petit peu différentes. Mais moi, je pense que la certitude, c'est qu'il y a en Seine-Saint-Denis vraiment des forces incroyables, avec des gens qui ont des idées extraordinaires. Moi, je citerai juste un de mes amis qui était là, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, le 9 pour la diaspora, un de mes amis qui s'appelle Younes Bourimej, qui est un de mes amis qui était là et qui est un chef d'entreprise qui est avec moi d'ailleurs à la chambre de commerce de la Seine-Saint-Denis, qui est également membre de la CPME de la Seine-Saint-Denis. Il était là, Younes, lorsque on a fait cette manifestation sur les diasporas. Et lorsque je l'ai vu après, il m'a dit, c'est superbe ce que tu fais, Jean-Loup, vraiment, c'est très bien. Tu nous fais parler, tu nous montres en avant. Mais il a raison. Il a raison, Younes. D'ailleurs, lui aussi fait un travail fantastique lorsqu'il est à Drancy. Donc voilà, on a des gens extraordinaires. On a des gens de force qui ont envie de montrer le positif. Vous savez, toutes les fois qu'on parle de la Seine-Saint-Denis, on est en train de parler. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron dit que c'est la Californie, mais il y a d'autres qui disent que c'est une terre de non-droit. C'est stupide. Alors, je ne dis pas pour la Californie, mais je dis pour des terres de non-droit. Là, c'est stupide. C'est une terre extrêmement dynamique, avec des gens qui veulent faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce département.
Oui, vous avez complètement raison. On a instrumentalisé la Seine-Saint-Denis comme d'autres quartiers en les présentant comme les territoires perdus de la République, alors que ce sont ceux qui parlent comme ça qui sont perdus. Les gens qui vivent dans ces quartiers ne se sentent pas perdus. Ils sont au cœur de leur vie amoureuse, économique, familiale, scolaire, professionnelle. Donc ça a été vraiment une espèce d'hypocrisie absolument incroyable, de discrimination qui a dirigé en tout cas beaucoup de personnel politique. Le groupement des patronats francophones, c'est 56 organisations patronales présentes dans les 5 continents. Et vous avez développé l'idée d'un monde meilleur et plus prospère, et vous avez voulu insister sur l'excellence entrepreneuriale. Lors des tables rondes magnifiques avec beaucoup d'entreprises qui étaient là, je vais citer par exemple Marjorie Saint-Lô. Elle dit « Je croyais en moi et on ne devient que ce que à quoi l'on croit ». Je trouvais ça extraordinaire. Et elle dit, ça permet d'apprendre à se connaître. Et je continuerai à innover. C'est vraiment, Marjorie a été lumineuse dans votre table ronde. Et il y a aussi Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre, qui dit que ce qu'on a dans son assiette, c'est ce qu'on est parti chercher. Et autre chose aussi, c'est de dire que chacun a cru en soi et prend conscience de son potentiel. Donc là, un génie inventif, une innovation, une audace incroyable dans cette réunion du CESE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les diasporas, c'est l'arme suprême contre les murs.
Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière encore dans mon expérience. Vous avez dit en effet que j'ai été médiateur des marchés publics. Et puis quand j'ai fini cette mission, Emmanuel Macron m'a nommé à ce moment-là pour la réindustrialisation de la France par l'innovation. On a fait un travail important avec une petite équipe qui était avec moi. Et on a fait des propositions qui ont été d'ailleurs reprises. Et je me suis largement aperçu dans cette mission que la réindustrialisation pouvait se faire avec des idées qui étaient des idées nouvelles. Et ces idées nouvelles, la plupart du temps, viennent justement des gens des diasporas. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais que c'était extrêmement important. Bien sûr, ça remonte à plusieurs années, mais plusieurs années après, je me suis dit qu'il faut qu'on réunisse, en effet, l'excellence entrepreneuriale des diasporas francophones, parce qu'il y a un véritable bouillonnement d'intérêt et d'intelligence dans les diasporas. Et il faut arriver à travailler ensemble et les mettre au service de nos nations. Pas que de la nation française, de nos nations. Et quand vous avez cité tout à l'heure les 56, en effet, organisations patronales qui sont membres du groupement du patronat francophone, qui sont avec nous pour travailler là-dessus, eh bien, je veux que chacune puisse profiter. Dernièrement, la dernière qui est arrivée avec nous, c'est la Mauritanie. Eh bien, en Mauritanie, je suis absolument persuadé qu'on va pouvoir aussi les aider à se développer. Travailler ensemble, voir comment on peut travailler ensemble. Ça, c'est important.
Vous avez une idée de la francophonie qui n'est pas une idée diplomatique, qui n'est pas une idée politique. La francophonie, c'est un espace d'échange.
C'est un espace d'échange avec des gens qui ont des plein d'avis, plein d'idées, plein de choses à faire ensemble.
D'ailleurs, vous dites la francophonie et la francophilie. C'est-à-dire que vous dissociez bien les deux, et c'est rare d'entendre ça.
Alors, pourquoi la francophilie ? Alors, il faut savoir que vous avez des pays, et notamment, si je parle des pays un peu plus lointains, et notamment dans l'Extrême-Orient, si on voit le Cambodge, si on voit le Vietnam, ils ont parlé français, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ils parlent français aussi bien que peut parler notamment les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Clairement, ils ne le parlent pas tous les jours. Eh bien, ces gens-là ont un amour de la France aussi. Et dans la manifestation sur la diaspora, il y avait un ancien député français, Bo Tham, qui était là, qui est d'origine, lui, cambodgienne, et qui me disait, tu sais, il y a aussi une grande... l'intelligentsia du Cambodge parle français. Et ça, c'est important. Et puis, il y a un autre point aussi, et je ne sais pas si vous l'avez souligné, mais dans les prix que nous avons remis, il y a eu le prix, notamment, de l'entrepreneuriat au féminin, qui a été remis par la Confédération des experts comptables. Eh bien, pourquoi j'ai souhaité que ce prix de l'entrepreneuriat au féminin soit remis justement par les experts comptables ? C'était pour montrer aussi qu'il y a aussi une histoire forte de la comptabilité et du juridique dans les pays qui ne sont plus aujourd'hui, qui parlent aujourd'hui moins le français, mais qui sont toujours francophiles. Et ça fait des liens, ça fait des ponts entre nos pays pour continuer à travailler ensemble. Vous savez, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des pays qui ont la même idée juridique, la même strate qui sont dans le domaine juridique et commercial qu'avec des pays qui ont des différences fortes. Et je parlerai notamment, je sais pas, l'Inde, qui est un grand pays, mais qui n'a pas du tout les mêmes éléments commerciaux et juridiques que nous.
Si on se réfère au grand discours fondateur d'Emmanuel Macron sur la francophonie, à savoir la multilatéralité, la société civile et le plurilinguisme, vous êtes complètement dedans.
Bon, on est dedans. Vous savez, je crois que de toute façon... le plurilinguisme est un élément fort, mais il n'y a pas que ça, hein, en effet, comme on vient de le dire. Vous savez, c'est quand même intéressant. Vous avez une radio qui est extrêmement écoutée. Elle est extrêmement écoutée, pas qu'en France. Et j'ai regardé ça, pas qu'en France, et par des pays qui, justement, ont eu cet élément du multilinguisme. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous savez, le français aussi, dans le multilinguisme, est un élément aussi fédérateur et rassembleur. Quand vous regardez... un grand pays aujourd'hui qui est d'ailleurs le plus grand pays francophone du monde, hein, qui est la République démocratique du Congo, bien évidemment, il y a des langues différentes qui sont parlées en République démocratique du Congo. Par contre, vous avez le français qui est rassembleur pour que tout le monde puisse parler, notamment en Afrique.
Dans la rencontre sur les diasporas, on a senti chez chacun des acteurs une très grosse dose de fraternité. Ça éclaboussait. On sentait cette fraternité, cette espèce d'écosystème qui les rassemblait, toutes les entreprises.
Vous savez, merci de me donner ça, parce que de me donner cette possibilité de m'exprimer sur un point qui pour moi est essentiel. Lorsque je vais en Afrique, lorsque la semaine dernière j'étais au Maroc, lorsque je vais en Tunisie dans quelques jours, je m'aperçois que il y a en effet dans le domaine économique vraiment un très grand rapport et un très grand souhait de travailler ensemble. Le politique, c'est différent. Et vous savez, vendredi, il y avait un Malien qui était présent. Eh bien, le Malien en question, il nous a parlé que des éléments économiques, pas des problématiques qui peuvent exister éventuellement entre la France et son pays. Lorsqu'il y a eu quelques mois... des événements qui ont changé le gouvernement au Niger. Eh bien, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé notre correspondant au Niger. Et il m'a dit, écoute, pour moi, ça ne change rien dans mon rapport avec le groupement du patron francophone. Bien évidemment. Et ça a été exactement pareil avec le Gabon dernièrement.
Vous avez parfaitement raison, parce que lorsque, par exemple, Emmanuel Macron a créé, avait monté à sa fois le rassemblement des diasporas africaines à Paris, ensuite à Montpellier, et lorsqu'il a aussi fait le sommet des deux rives, etc. Sur le plan politique, on a toujours eu ces petites choses où on accusait, entre guillemets, l'événement d'ingérence. Mmh. Mais on ne retrouve pas ce mot d'ingérence lorsque c'est de l'économie.
Absolument. Et ça, c'est important. Alors, vous savez, je voudrais signaler aussi une chose. Il se trouve que le président Emmanuel Macron vient de nommer un vice-président du groupement du patronat francophone pour s'occuper justement des relations avec l'Afrique. Je pense que vous le savez, c'est Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel est vice-président du groupement du patronat francophone et moi je suis extrêmement honoré, nous sommes extrêmement honorés que le président Macron ait choisi Jean-Marie Bockel, qui est un politique en effet important, qui est un monsieur de grande qualité, pour aller discuter
de son nom. Qui a été un ancien ministre.
Bien sûr.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, grand témoin avec Jean-Loup Blachier, président du groupement des entreprises du patronat francophone. Alors, cette francophonie à laquelle vous êtes attaché, il y a 321 millions de personnes qui sont francophones. En 2050, on prévoit à peu près entre 700 et 750 millions, soit 8% de la population mondiale. On rappelle que 88 États sont membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et que le français est la cinquième langue mondiale et même la quatrième sur Internet. Moi, je pensais qu'elle serait la deuxième ou troisième, bon. Et que, fort de tout ça, vous êtes membre du Conseil économique et social, et vous allez préparer un travail, ce qu'on appelle une saisine, et vous allez travailler sur un rapport qui est la francophonie à la croisée des défis économiques et numériques, et quels enjeux privilégiés.
Alors oui, en effet, le Conseil économique et social et notamment la Commission internationale et les affaires européennes m'a chargé de ce rapport, justement parce que j'étais président du groupement du patronat francophone, parce que il est extrêmement important de pouvoir montrer que au-delà d'un élément qui soit culturel, eh bien il faut aussi penser la francophonie comme un élément qui est économique, rassembleur, et justement en utilisant les moyens modernes qui sont le numérique.
Vous souhaitez à la fois, vous le dites, consolider ce qu'il y a, mm-hmm. mais en même temps avoir une stratégie de développement, à la fois sur le plan économique et sur le plan numérique. C'est-à-dire que vous voulez imprimer un nouveau souffle?
Moi, je crois que de toute façon, vous savez, à l'évidence, si on ne va pas avec l'histoire, les choses ne vont pas aller. Vous savez, j'ai été tout à fait... extrêmement favorablement intéressé lorsque je me suis aperçu qu'en Afrique, finalement, le numérique était la chose qui était la plus forte. Il y a quelques années, lorsque j'ai été élu président du groupement du patronat francophone, vous savez, c'est une organisation qui est ancienne, hein, qui a maintenant 37 ans, et donc il y a différents présidents qui ont été avant moi. Avant moi, il y avait des Malgaches, avant moi, il y avait des Africains, il y avait des Québécois, et tous ont imprimé par leurs actions les différentes choses qu'ils ont pu faire. Moi, ce que j'ai souhaité, c'est de faire de l'appui aux entreprises. C'est-à-dire faire rencontrer les entreprises entrantes et de faire de l'appui aux entreprises. Et la première manifestation que j'ai faite, ça a été le Forum international des entreprises francophones. Je l'ai fait à Dakar, c'était en 2019. Et en 2019, je suis arrivé avec... des idées qui n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire que je suis arrivé en pensant que finalement, nous en Europe, nous étions les plus forts sur tout ce qui était numérique. Quand je suis arrivé à Dakar, je me suis aperçu que finalement, ils étaient plus forts que nous dans beaucoup de choses, et notamment, nous n'avions pas la connaissance suffisamment forte pour payer notamment avec nos téléphones. Eux, ils payaient déjà avec leur téléphone. Ils avaient une connaissance extrêmement forte du numérique, et c'était avec le numérique qu'on pouvait justement commencer à faire un développement économique avec eux.
Oui, mais ça, c'est quand même dans certains pays et dans certaines structures, mais la fracture numérique entre le Nord et le Sud, elle existe, Jean-Loup Blachier. Vous avez ce qu'on appelle un IDH de nombreux États africains qui est très très bas. Vous avez une précarité, vous avez un chômage des femmes, vous avez une... D'ailleurs, c'est un de vos dadas de développer la formation professionnelle. Vous avez une formation professionnelle des jeunes ou de l'artisanat qui est quand même au ralenti. Vous avez une fracture numérique quand même.
Alors, cette fracture numérique, elle vient de plusieurs choses. Elle vient premièrement d'un élément important qui est celui de l'énergie. Car dans beaucoup d'endroits, malheureusement, vous n'avez pas autant l'électricité qu'il faut et nous sommes en train de voir comment nous pouvons justement aider à ce que certains villages puissent avoir cette énergie nécessaire pour pouvoir avoir des ordinateurs. Sans énergie, vous ne pouvez pas avoir d'ordinateur. Mais à partir du moment où vous avez justement les moyens techniques, eh bien vous apercevez que les Africains, et là je voudrais vraiment leur rendre hommage parce que c'est un élément important, les Africains ont une intelligence informatique extrêmement forte. Et ils savent l'utiliser bien, très bien, l'informatique. Et donnons-leur les moyens de le faire. Si on leur donne les moyens de le faire, ils seront arrivés à se débrouiller, à se développer.
Et vous dites dans votre volonté de développer ces stratégies, vous voulez porter les valeurs de démocratie et de réciprocité. C'est pas un peu paternaliste, hein ? Expliquez-nous un peu.
Non.
Vous allez ramener la démocratie en Afrique ?
Non, c'est pas des valeurs de démocratie. Je voulais dire que simplement, d'abord, j'ai dit en tout lieu que je ne ferai jamais de politique, et la politique n'est pas... pour moi, n'est pas l'élément du groupement du patronat francophone. Et vouloir dire que l'on veut porter la démocratie ne doit pas être sur un élément qui doit être un élément politique, hein, mais un élément encore économique. Moi, je crois que...
Et là-dessus, Jean-Loup Blachier, d'ailleurs, moi, ayant fait partie du CESE pendant près de 7 ans, on a développé cette idée que même dans les pays africains, dans leur histoire, ils ont des éléments de structure politique qui leur permettaient de gérer un peu la politique. Et d'ailleurs, avec Jacques Krabal, qui était le président des députés à l'Assemblée nationale francophone, on a développé cette idée. Les Africains portent dans leur culture et dans leur histoire des éléments qu'on peut appeler démocratie ou autre chose, mais ils ont quand même une tradition. Et la francophonie, en tout cas les entreprises, doivent faire avec cette tradition africaine.
Alors, vous savez, lorsque je suis allé, c'était il y a quelques mois, en RDC, rencontrer justement le président du Conseil économique et social de RDC, j'ai avant tout rencontré le roi Lumba Lumba. Qui est un roi coutumier et qui, lui, est le président des rois, justement, de RDC. Et en effet, ce système fonctionne très bien. Hein. Donc moi, je ne vais pas arriver à être donneur de leçons. Encore une fois, vous ne me verrez jamais, cher Nasser, être donneur de leçons. Moi, je respecte trop les peuples, je respecte trop les gens pour leur dire... Faites ce que je vais faire. Par
contre,
les aider,
vous le dites dans votre déclaration d'intention, vous voulez être passerelle. Donc, vous avez tout dit quand vous dites ce mot.
Pour moi, je voudrais absolument qu'on construise des ponts entre les peuples. Vous savez, il n'y a rien de pire que de construire des murs. Moi, je veux qu'on construise des ponts entre les peuples et tous les gens qui aujourd'hui essayent de mettre des barrières pour essayer de se mettre, me semblent absolument hors du temps.
Alors, vous intégrez aussi le mot de réciprocité. Mmh. Est-ce que c'est... mais jamais le mot de gouvernance. Cette réciprocité, Jean-Loup Blachier, elle doit être inscrite au cœur d'une gouvernance partagée.
La réciprocité, c'est quoi ? C'est accepter les autres. Moi, je crois que c'est un élément majeur. Que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, si vous n'acceptez pas les autres, vous savez, moi, il y a une chose qui m'a toujours un petit peu préoccupé. Lorsque vous avez des gens qui disent « moi, je veux exporter », alors là, je reviens dans l'économique, lorsque vous avez des entreprises qui disent « moi, je vais exporter vers... », mais j'accepte pas que les gens importent chez vous, exportent chez moi, c'est idiot. Donc, il faut avoir de la réciprocité. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner.
Ah. Que pensez-vous des développements économiques actuels ? La Chine qui veut créer une monnaie à elle, Poutine qui aussi pareil, qui veut être payé qu'en rouble russe, et puis les BRICS qui s'associent, BRICS 1, BRICS 2, BRICS Plus, et puis aussi le franc CFA hein, qui va pas manifestement vivre ces derniers moments. Qu'est-ce que vous pensez de cette remise en question planétaire, de la monnaie, du dollar et qui est quand même à la base des échanges économiques.
Alors d'abord, les monnaies sont des éléments souverains des pays. Moi, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas avoir une monnaie mondiale. Hein. Et heureusement que le dollar, même si très souvent il est imposé, n'est pas une monnaie mondiale. Et heureusement qu'il y a l'euro qui est arrivé. Et maintenant, vous parliez de la monnaie chinoise, qui est une grande monnaie, puisque c'est le renminbi. Et avec le renminbi, bien évidemment, on doit pouvoir aussi travailler. Et la plupart du temps, moi, je me dis, mais lorsque je vends mes produits moi-même en Chine, ou lorsque j'achète des produits en Chine, ou lorsque je vends des produits aux États-Unis, eh ben, j'aimerais aussi bien pouvoir vendre avec ma monnaie, qui est ma monnaie à la mienne. Pourquoi? Ben, parce que il y a des fluctuations dans les monnaies. Et lorsque j'achète quelque chose, eh ben, j'aime bien savoir exactement combien je vais le payer. Si vous avez une fluctuation qui est arrivée avec une fluctuation de change, eh bien, finalement, au final, vous savez plus combien vous l'avez payé. Vous avez pu perdre de l'argent quand vous avez revendu à quelqu'un. Donc, ça devient très compliqué. Donc, bien évidemment, il faut que les monnaies existent. Des monnaies entre les pays, c'est souverain, ce que je redis, elles doivent exister. Et c'est pas à moi, en tout cas, chef d'entreprise de Seine-Saint-Denis, qui va expliquer qu'il doit y avoir qu'une monnaie dans le monde. Hein.
Alors, on a vu dans tout ce que vous faites, vous mettez le paquet à la fois sur l'artisanat, sur les jeunes, vous voulez créer des espaces communs, sur l'entreprise, et surtout, vous voulez donner une grande orientation à la société civile, cette société civile que beaucoup appellent de leur vœu. Si aujourd'hui, vous aviez un ou deux conseils à donner justement à ces gens de la société civile, comme tous ces jeunes qui sont exprimés au CESE lors de l'événement sur les diasporas, si vous aviez un ou deux conseils à donner aux gens de la Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs, ça serait quoi ces conseils?
Alors d'abord, moi je trouve que la société civile n'est pas suffisamment représentée. Alors en effet, le CESE, c'est la société civile organisée. Mais finalement, est-ce qu'on nous écoute suffisamment? J'en suis pas du tout certain. Je regardais le nouveau gouvernement qui a été présenté par le président Emmanuel Macron. Est-ce que vous voyez beaucoup de personnes de la société civile à l'intérieur de ce gouvernement? Non. Vous avez des gens qui n'ont pas forcément l'expérience. Par contre, vous avez des gens qui sont des politiques, qui ont fait que de profession politique et qui défendent la plupart du temps leur métier de politique. C'est pas le but. Le but, c'est avant tout que des gens puissent travailler ensemble, puissent faire profiter de leur connaissance, et la connaissance, c'est l'expérience. Vous avez aussi, malheureusement, des gens qui ont peut-être des âges un peu plus avancés. Il faut penser peut-être aux Africains qui respectent les personnes âgées, parce qu'ils savent que ce sont les personnes âgées qui, par l'expérience, ont pu justement bâtir tout un avenir pour leur jeunesse.
Et puis qui s'engagent justement dans la formation.
Et nous, malheureusement, on n'est pas dans ce sens-là, puisqu'en fait, on voit la jeunesse, ce qui est important, bien évidemment, mais on oublie l'expérience. Il faudrait que dans ce gouvernement qu'il y ait, il y ait autant de personnes jeunes que de personnes d'expérience, autant de femmes que d'hommes, ça c'est fait et c'est une très bonne chose, mais peut-être autant des gens d'expérience jeune et d'expérience ancienne. Et donc moi je pense que ça c'est un point qui malheureusement n'existe pas. La formation, c'est l'élément majeur. Si on n'a pas suffisamment de gens qui puissent vous donner cette expérience, qui puissent justement vous donner cette formation, on n'arrivera jamais à faire développer économiquement l'Afrique. Vous savez, vous avez cité, je souhaite absolument que l'on puisse faire naître la petite industrie en Afrique. Pas la grande industrie, parce que la grande industrie, la plupart du temps, elle vient quelque part, elle s'installe et elle étouffe un petit peu les petites industries. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse renaître la petite industrie en Afrique, pour que justement on crée des emplois. Encore pour faut-il, pour que ça soit là, il faut, en effet, avoir une formation. En Afrique, on s'aperçoit qu'il y a des formations de haut niveau, qui se sont largement formées, d'ailleurs, en France, mais dans d'autres pays. Mais on n'a pas la formation, peut-être, de techniciens et techniciens supérieurs. Et bien, moi, je pense qu'il faut absolument qu'on ait cette formation de techniciens, techniciens supérieurs, pour faire renaître cette petite industrie, la faire grandir, et que, enfin, en Afrique, il y ait une grande industrie, mais qui soit émergente.
Mais là, une bataille acharnée qui se prépare avec les Russes qui sont présents en Afrique, les Chinois qui sont présents, les Turcs qui sont présents. Donc il y a une bagarre acharnée qui se prépare.
Alors la plupart du temps, malheureusement, il faut avoir les yeux bien grands ouverts. Il faut s'apercevoir que malheureusement, les Chinois, les Russes et beaucoup d'autres sont là pour profiter des forces de l'Afrique. Pas forcément pour
les matières premières.
Voilà, les matières premières et pas forcément pour arriver à permettre qu'il y ait cette petite industrie qui naisse. Et moi, ce que je veux, c'est que le groupement du patronat francophone aide justement ces petites entreprises à renaître. Et parce que ça, c'est ça qu'on a besoin pour arriver à développer l'emploi en Afrique.
Merci Jean-Loup Blachier d'être passé par les studios de Beurre FM. Et on vous recevra après votre événement de Villers-Cotterêts le 27 juin et pour faire un peu le point. Et d'ailleurs, un événement où on espère Beurre FM sera partenaire et pourra participer. Donc, merci beaucoup. On aura retenu votre engagement, cette force d'engagement qui vous anime sur l'entreprise. L'entreprise, un organisme vivant au service de l'humanité et de la paix. Merci Jean-Loup Blachier.
Merci beaucoup. Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.